quelle belle vallée.
Avec ses plaines, avec ses prés,
avec ses reines, avec ses fées,
elle est.
Quelle belle vallée.
Que je m'en vais te raconter,
que je m'en vais te rencontrer
à pied.
Bien, j'arrive à la ferme Ruka au Touvet. Ferme en agriculture bio depuis une quarantaine d'années. On va demander des précisions tout à l'heure. Une dizaine de personnes sont présentes pour le pot d'accueil ce mercredi un peu humide. Bonjour madame.
Bonjour.
Je peux vous demander votre prénom ?
Monique. Disons que moi j'habitais là-bas il n'y a pas si longtemps et puis j'ai toujours été en fait à Crolles. Enfin, je vais très souvent au jardin de Maé, la boutique, enfin le magasin. Donc du coup. Voilà, donc je connais un peu ce que fait les Ruka donc en venant là-bas. Et du coup, je viens de déménager au Touvet et puis du coup, c'était l'occasion de découvrir un petit peu un peu plus l'exploitation, un peu comment ils fonctionnent et puis voilà comment ils travaillent et par rapport un peu au choix du bio que j'ai le plus souvent possible. Voilà, je suis pas une puriste, c'est-à-dire que ça dépend des moments, hein, ça dépend de ou du budget, ou de là où je suis, mais j'essaye le plus possible de parce que ça me voilà, c'est plus en accord avec ma façon de penser.
Hein. D'accord. Les produits bio, et puis le fait que ce soit produit ici, en saison aussi, chez M. Ruka, je crois.
Oui, aussi, c'est, et puis dans la région, dans la proximité, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit, alors, en ce moment, ici ?
Ici, en fait, je sais qu'il y a, comme il y a la... Ils ont aussi un fils, enfin, ils travaillent un peu dans le sud, donc du coup, ça permet d'avoir des tomates, des aubergines, mais après, tout ce qui est un petit peu pommes de terre, carottes, tous les légumes que moi j'utilise, potimarron. Puis j'utilise aussi tout ce qui est un peu les petites céréales qui font des tailles, quoi.
Entendu, bon, je crois qu'on a un petit jus de fruits d'accueil là ce matin, et puis après, on va partir sur l'exploitation, et je vais vous suivre dans cette visite. Merci.
D'accord, merci beaucoup à vous.
C'est Radio Grésivaudan.
Grésivaudan, ah oui, d'accord.
Donc voilà, c'est là qu'on commence. Donc voilà ce qu'on fait. Comme on fait pas mal de maïs et de blé, on fait à peu près 10 hectares de céréales, dont 5 hectares de maïs, 5 hectares de blé. Et donc sur cette parcelle de 5000 m², j'ai fait, comme il y a l'arrosage qui passe au milieu, et après il y a des petits arroseurs tous les 12 mètres, ben, j'ai fait mon champ de potimarron, comme il faut que ça soit éloigné les variétés les unes des autres. Ben, c'est-à-dire, c'est un peu, ça risque de se croiser avec les butternuts, avec les courgettes. Donc les potimarrons, ils sont ici, les courgettes et les pâtissons sont là, et le champ de butternuts, il est à l'autre côté. Butternuts, c'est les machins longs comme ça, là. Un beurre de courge. Voilà. Donc vous voyez le maïs, ici, là. Et les potimarrons, voilà.
Quelle belle vallée, avec ses cucurbitacées.
Bon. Et d'une année sur l'autre, vous faites une alternance de cultures sur le même terrain. Comment est-ce que vous...
Ah, mais ça c'est une obligation. Hein. Ça, c'est dans le cahier des charges et un peu dans le principe de tout paysan, théoriquement.
Nous, là, on est obligé de la faire, la rotation.
Bah oui.
On l'a toujours fait, mais on est obligé de la faire dur. C'est-à-dire qu'une année sur six de maïs seulement.
Mais
les
mecs,
les gars, tous les autres, ils choisissent le traitement. C'est-à-dire qu'entre le désherbage et tout le bastringue, ils rajoutent encore un traitement pour toujours faire du maïs au même endroit. Nous, on a fait des rotations. Mais eux, ils n'en ont jamais fait. C'est pour ça qu'il y a la crise au maïs. C'est eux qui nous ont amené la crise au maïs. Mais le problème, les gars, ils nous ont. C'est-à-dire que nous, on va être obligé de faire une année sur six que du maïs. Et les autres, en traitant, ils font toujours du maïs.
Le 14 septembre dernier, la famille Ruka ouvrait les portes de son exploitation en agriculture biologique au Touvet. Françoise et Henri Ruka mènent la visite. Interviewés à l'issue de cette instructive promenade, les paroles de David, le fils, font écho en toute cohérence aux propos d'Henri, le père, précurseur et rebelle.
Pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes sur le maïs ? Aujourd'hui, on a la chrysomèle qui est sur le maïs. Bon, on l'a enrayé, plus personne n'en parle, mais on a quand même une production de maïs qui est massive. Donc là, si on fait une production qui est massive, on retrouve forcément ces insectes qui sont là, en l'occurrence, qui étaient en nombre petit. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. On a toujours entendu parler de la mouche de la noix, mais aujourd'hui, il y a plus de cultures, donc forcément, il y a plus de maladies. Pareil pour le maïs. Donc, voilà, il faut aussi à un moment donné se dire, bon, on a une région qui fait du maïs, il y a aussi derrière des aides qui vont avec. Posons-nous la bonne question, est-ce qu'on veut avoir des trucs à outrance ou au contraire faire dans la diversification? Et là, on aura moins de problèmes, la diversification et la rotation. Et comme par hasard, la rotation, c'est la seule chose qui a été trouvée aujourd'hui pour contrer ce phénomène sur le maïs.
Redécouvrir d'anciennes variétés potagères, c'est en fait avoir l'impression d'en découvrir de nouvelles. Mais cela induit le besoin de renouveler ses recettes. Françoise Ruca distille au cours de la visite quelques tuyaux culinaires.
Mais là, c'est des pâtissons. Une autre variété de pâtissons.
Ah oui, ils sont jaunes, ceux-ci.
Ceux-là, ils sont jaunes. Ils sont un tout petit peu plus fins.
Comment ça se cuisine, ça? Parce que moi, je connais les petits qu'on fait au vinaigre, là, en conserve.
Voilà, les petits aussi, vous pouvez les prendre tout petits, c'est dommage. Ouais. Mais là, vous les coupez comme une courgette, ou alors, vous les farcissez. Vous me les mettez dans l'eau, vous gardez la peau. Mettez dans l'eau bouillante, juste 5-10 minutes, parce que vous avez une masse. Vous coupez là, vous enlevez les graines, puis vous le farcissez soit avec du riz et du thon, si vous mangez ça. Ou autrement, moi, j'avais fait du quinoa, champignons. Donc, je le mets 5-10 minutes pour l'attendrir, toujours pareil, parce que comme je garde la peau, j'enlève les graines, et après, je farcis avec mon quinoa, champignons, du fromage, et j'y repasse au four.
Voilà.
C'est super bon.
Ça met la bouche.
Enfin, nous, on n'était pas habitués, on n'en mangeait pas. Il a fallu qu'on vienne ici, nous, pour en manger.
Oui, parce qu'on ne connaissait pas.
On ne connaissait pas,
dans
les butternuts, vous en avez mangé, les butternuts? Même pas.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Ah, demain, vous venez au magasin, on va prendre. C'est un goût de noisette, il y en a là. Ouais. Le butternut.
Ah, c'est ça.
Ce qu'on appelle la courge spaghetti aussi, non?
Non.
Non. Ah, non, ça ressemble un peu, mais...
C'est carrément autre chose, ça, c'est vraiment le goût de noisette, quoi.
Et ça d'accord. Se mange comment, ça?
Comme un petit marron, pareil. Vous faites ça comme une courge, en fait.
Comme
purée,
une...
c'est délicieux.
Comme en purée, quoi.
Voilà, exactement.
Coupé dans de l'eau.
Purée de butternut.
Prenez votre casserole, mettez dedans, vous laissez bouillir, vous piquez, quand c'est al dente, soit vous faites une petite purée, soit vous découpez en petits dés, vous faites revenir ça à la poêle avec un petit filet d'huile d'olive.
Ah.
Nickel.
Avec son seigle, avec son blé, semé.
Un agriculteur bio est aussi un chimiste averti. En effet, au-delà d'une vraie connaissance des cycles naturels, il devra, comme les autres, pour réussir ses examens, maîtriser les lois de l'agriculture industrielle. Prenons quelques minutes pour une bonne leçon.
La différence qu'il y a entre l'agriculture chimique et l'agriculture biologique, en définitive, et c'est surtout la différence qu'il y a entre l'agriculture que je considère comme normale et anormale. C'est pas forcément la bio et pas la bio, mais c'est quand même la bio, c'est au niveau de la fertilisation. C'est les méfaits de la fertilisation azotée sur la santé. Et en définitive, une plante, un sol, un animal ou nous, c'est la même chose. Vous mangez, je disais à madame, vous mangez du pâté tous les jours de boîte, vous n'allez pas aller loin. Vous aurez des problèmes. Vous allez être comme les plantes chimiques. C'est-à-dire que, ah ben tiens, c'est bizarre, il y a du puceron, pourquoi? C'est pas normal qu'il y ait du puceron. Donc on va le traiter. Après, je vous parlerai de chabousseau après. Et vous allez avoir des problèmes de toutes sortes. Vous allez avoir du blé, si vous fertilisez trop, qui monte à 1,50 m de haut, donc il va se coucher. Donc tous ces problèmes, les chimistes, ils les ont résolus. Contre le puceron, ils vous ont mis un insecticide, de plus en plus fort parce qu'il y a des mutations. Contre le blé qui vient très haut, ils vous ont mis des raccourcissants. Le cycocel. Alors, le problème qu'il y a, c'est la surfertilisation. Alors, les conséquences, c'est quoi? C'est déjà, plus on surfertilise, plus on esquinte les choses. Trois ingénieurs américains ont démontré par A plus B les méfaits de la fertilisation sur les prairies et sur les animaux. La surfertilisation amène... un surdosage d'azote dans l'herbe que mangent les vaches. Oui, il n'y a pas que la vache folle, il y a aussi avant. Et ça modifie le rapport CA sur P, ça modifie la proportion des acides gras pour le beurre. Les vaches laitières, elles arrivent à attraper des fièvres vitulaires, elles sont beaucoup plus malades, elles ont beaucoup plus de mamites, et c'est pas normal. Alors, si on prend le problème sur les céréales. Les céréales, ça fait tout ce que je viens de vous dire. Et ensuite, au niveau des gluten, le problème des gluten, c'est la surfertilisation. Ce qui fait qu'en définitive, il y a des problèmes de digestion parce qu'il y a trop de gluten dans le blé. Et des gluten que le corps, il ne sait pas quoi faire parce qu'il s'est tellement poussé qu'il surcharge le foie, il fait fonctionner les fonctions d'élimination trop fortes. Ensuite, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça fait donc qu'on est obligé de traiter les plantes contre tout ce qui est les bestioles, les maladies fongiques. Et pour nous, c'est pas bon de manger ces trucs-là, hein, à travers le pain et le reste. Alors après, je vais vous parler en deux secondes des travaux de Chabousseau. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est extrêmement impressionnant, ces trucs-là. Moi, j'y ai suivi vraiment de très près, et il y a très peu de gens qui le savent. C'est la trophobiose. Sa théorie, c'était... Lui, il a commencé comme petit chercheur à l'INRA de Bordeaux, il a fini maître de recherche. Et lui, sa vie, ça a été ça, c'est de comprendre pourquoi, quand on traite contre l'araignée rouge ou d'autres choses, 15 jours après, il y en a encore plus. Il dit, putain, c'est pas possible, plus on traite, plus il y en a. C'est normal, parce que les sèves sont totalement déséquilibrées à cause de la surfertilisation, mais aussi parce que certains insecticides perturbent la fonction protéinique de la plante et emballent la transformation de protéines de base en acides aminés, de nitrates, de nitrites qui se transforment en acides aminés. Et ça emballe cette fonction-là. C'est un peu comme si ça emballait la photosynthèse, mais ce n'est pas la photosynthèse, c'est la protéosynthèse. Et de ce fait-là, la plante était déjà riche en protéines, ce qui n'est pas normal, mais elle est encore plus riche. Donc, en correction, si on peut dire, qu'est-ce que fait la plante? C'est naturel, c'est un équilibre. Qu'est-ce que fait la plante, entre parenthèses, pour lutter contre l'excès de protéines des sèves? Eh bien, c'est les insectes qui viennent sucer la sève de la plante. Les maladies, comme les maladies fongiques, c'est comme des insectes parce qu'elles émettent des mycéliums et elles se nourrissent de la sève des plantes. Donc, en définitive, la plante est là comme moyen, c'est un moyen naturel, si on peut dire, de se faire attaquer par les insectes et les champignons pour faire baisser le niveau de sucre sucre et de protéines dans la plante. Et voilà les problèmes que ça peut engendrer. La trophobiose est connue depuis 1975. Et en définitive, tout le monde le sait, tout le monde s'en fout et tout va très bien. Tout ça, c'est connu, mais c'est occulté total parce que c'est intéressant. Plus vous mettez de l'engrais, donc ça fait vendre de l'engrais, mais après, si vous vendez de l'engrais, vous vendez des phytosanitaires pour ceci, pour cela, des raccourcissants, et vous, on part d'une culture naturelle au départ, et on arrive, parce qu'en définitive, moi, ça ne me gêne pas de fertiliser en chimie, si on peut dire. Outre le fait que je suis pour la bio et que je préfère, au lieu d'amener NPK, CO, OMG, je préfère amener aussi du fumier qui, comme on disait tout à l'heure, 1 kg d'humus dans le sol retient 11 litres d'eau. Vous voyez, la fertilisation organique n'a pas que l'effet de fertilisant. Ça a un effet structurant du sol, ça a un effet de rétention d'eau, ça a un effet de fertilisant et de fertilisant multinutrition. C'est la différence qu'il y a avec la chimie. Mais en définitive, fertiliser NPK, COMG, ce n'est pas non plus une catastrophe. Bien que j'ai choisi le bio, que c'est autre chose encore, c'est déjà le niveau en dessus. Mais il faut fertiliser raisonnablement. Et comme les gars, ils ne savent pas ce que c'est que la raison, eux, ils voient en définitive le rendement. Et parfois, le rendement, il est en dessous. Le rendement économique, il peut être en dessous du rendement physique. Tellement ils ont mis de trucs, ils sont obligés d'amener des intrants. C'est un mot que j'aime pas, mais bien, ça cache tout ce qu'il y a derrière le mot intrant. C'est-à-dire, ils sont amenés, au lieu d'appeler intrants, on pourrait dire amener des hormones nénifiantes, amener des antifongiques et amener des insecticides. Voilà. Et si on additionne tout le prix de ces produits, et par rapport au rendement économique, eh ben, des fois, le rendement, il est plus bas au niveau économique que s'ils avaient mis moins d'engrais et que ça les ait obligés, ça leur a amené à ne pas utiliser ces produits-là. Voilà. Et en définitive, on fait tout pour dire cassez-vous pas la tête, fertilisez. Vous avez les gars en blé, ils font 10 tonnes de blé à l'hectare, alors que moi j'en fais 5 tonnes, la moitié. Mais je m'en fous, mon blé, il n'y a pas de problème. Que les gars, ils sont obligés de mettre un raccourcissant, deux désherbants, des antifongiques et des insecticides. Et on vous dit, le blé, il est bon. Ouais, ben allez-y. Allez-y, le blé, il est dégueulasse, il est plein de produits chimiques. Et en plus, il y a un excès de gluten. Voilà, alors avec ça, vous faites quoi?
Dans la famille Ruca, on n'est, vous l'avez compris, ni intégriste, ni utopiste. Si on a choisi la bio, c'est pour de bonnes raisons.
Les produits de traitement, je suis désolé, en dose centésimale, en ppm, on retrouvera toujours des particules de ces produits chimiques qui, à petite dose, et je le dis et je le répète, et ça c'est pour moi c'est quelque chose de fondamental, toutes ces micro-particules, toutes ces doses qu'on ingère tous les jours font en fait ce qu'on est. Moi je suis désolé, on est ce qu'on mange. Et le résultat, ben, c'est que voilà, le corps, l'organisme, ça peut être une machine qui est merveilleuse, mais à un moment ou à un autre, il nous rend l'appareil, quoi.
Quand vous prenez l'index phytosanitaire de l'ACTA, c'est le vidal de l'agriculture. Eh bien, à l'époque, vous aviez marqué noir sur blanc ce produit-là, qui est un antifongique ou un insecticide, mutagène, cancérigène. Vous ne pouvez pas rester insensible à ça, quand même. Hein? Et moi, j'avais le fils, comme je disais, le fils de la cuisinière à Crôle. Son fils, c'est notre copain, il faisait un BEI à Guillemère à Grenoble, et il est mort à 17 ans du cancer des os. Et ça, je m'en rappelle. Hein. Je vous garantis, il avait des bosses comme ça sur la tête. Et après, un de mes élèves dans l'Allier, il est aussi mort du cancer des os. Il avait 17 ans. Et je passais le voir au Centre Lennec à Lyon quand je revenais, tous les 15 jours. Et ben ça, quelque part, ça vous marque. Et disons que pourquoi je suis revenu à la ferme? Et ben d'abord parce que j'y suis né, ensuite parce que mon père il commençait à fatiguer, mais aussi parce que j'étais malade, parce que j'ai vu des choses... les cancéreux à 17 ans. À 17 ans et plus jeune, parce que quand vous allez dans ces centres-là, vous voyez des gamins qui viennent juste de naître, qui ont déjà le cancer. Et quand on a appris tout ce qu'on a appris, eh ben, à un moment donné, vous dites non, non, ça, merci, au revoir, je ne veux pas utiliser. Voilà. Voilà, c'est ça le vrai la vraie chose en définitive, c'est ça. C'est qu'en définitive, vous avez acquis une certaine expérience, des certaines connaissances, et à un moment donné, vous dites stop, là c'est bon, là les conneries, ça va. Je ne veux pas empoisonner les gens, je ne veux pas me tuer moi et mes petits-enfants. Voilà, c'est un choix, mais c'est pas un choix qu'on dirait « Ah, vous avez été un pionnier ou pas ». Non, non, non. Et même mes collègues de formation, ils disent « Mais pourquoi tu fais du bio ?» Et j'ai dit « Attends, t'as lu quel livre, toi ?» Parce que les gars, en définitive, ben, ils ont toujours pratiqué ce qu'on leur a appris. Mais ils ont jamais... Moi, je suis un peu un rebelle. Je suis un peu rebelle. J'aime beaucoup lire, énormément lire et rechercher. Je n'ai jamais cessé d'apprendre depuis que je suis à l'école, même maintenant. Et à un moment donné, il faut dire stop, il faut dire arrêter.
L'agriculture sans la culture, c'est comme la science sans la conscience, c'est nul. Les bonnes pratiques ne rejettent pas la science, elles s'en font un allié.
Il faut savoir que dans une conduite de culture, qu'elle soit, je dirais, en bio ou en culture traditionnelle, on a forcément une conduite de culture. Et c'est là où on trouve une différence. Nous, on a, je dirais, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, des techniques de culture qui sont à notre disposition. Ne serait-ce que pour, voilà, on va prendre un exemple, on va dire, voilà, on a un souci de Dorifor sur une culture de pommes de terre, on va utiliser aucun traitement de produits chimiques de synthèse. Ça sera uniquement donc des produits phytosanitaires validés par Ecocer et issus de plantes. On a parlé de la pyrètre, on a parlé de son dérivé qui est la pyréthrinoïde qu'on retrouve en culture chimique traditionnelle. Nous, on utilise la pyrèse, on utilise également tout ce qui est, je dirais, engrais. Vous avez parlé d'engrais, d'engrais minéraux organiques issus de sang, de cornes, de sang desséché, de filières bovines. Des engrais Michu, c'est une marque d'engrais qui sont validés par Ecocert. Beaucoup également de fumier de cheval, c'est la base, on appelle ça le complexe argilo-humique, c'est la base de l'amendement. Si on prend, on va dire, une culture comme la pomme de terre, nous on apporte donc le fumier, après la culture vient dessus, on n'apporte aucun élément azoté, c'est le fumier qui minérise à peu près 2% d'azote par an, et les rotations qui vont faire en sorte que le sol soit un sol approprié à la culture. À savoir que dans les cultures traditionnelles, on apporte par fractionnement. Donc on l'apporte au semis, on l'apporte en cours de tubérisation. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'apport d'azote qui est d'azote de synthèse, on est bien d'accord. Donc nous, on a cette base de fumier de cheval. Après, au niveau des traitements, on va prendre l'exemple du Dorifor. Une attaque de Dorifor, on va traiter avec donc un Bacillus thuringiensis, qui est un bacille qui va attaquer le système nerveux des larves et qui va faire en sorte que cette larve va mourir de faim, quoi, en fait. Donc là, on retrouve une lutte qui est bio. En fait, on n'utilise aucun produit de traitement chimique de synthèse, pour l'exemple du Dorifor. Après, vous avez un exemple sous serre, les Alerodes, on va traiter ça avec des Encarcia formosa, qui est un petit insecte qui va les pondre dans les œufs de l'autre. Et ça, c'est la lutte intégrée. Et les deux sont complémentaires. Donc on utilise vraiment les deux. Quand on les pucerons, c'est clair qu'on fait également des lâchers de coccinelle. C'est plus facile en sous-serre qu'en plein champ, mais ça le fait aussi. Enfin voilà, il y a un panel de techniques qui sont aujourd'hui à notre disposition. Et moi, je vais reprendre le flambeau en ayant la même démarche.
Les oiseaux ont les os creux comme des haricots.
Les fourmis font leur nid aux racines des pissenlits.
Retour au champ pour découvrir avec Françoise Ruca quelques nichoirs perchés dans un mûrier. La diversité, c'est chouette, mais il reste à convaincre certains riverains qui n'ont pas encore tout compris.
Regardez comment sont les nichoirs des petites chouettes, sont pareils les mêmes. C'est long.
Là, c'est pour les chouettes.
Ouais.
Et c'est habité alors, il y en a.
Bien sûr. Ouais. Ah, ils viennent que chez Ruca. Hein. oui, parce que c'est ce que je dis.
C'est génial.
On a des paysans mal intentionnés qui, parce qu'on en met avec une copine, on essaye de mettre les nichoirs pour les petites chouettes qui sont magnifiques, elles sont grises, elles sont belles.
Ah oui.
Et j'en avais mis sur des noyers un petit peu plus loin qui n'avaient pas trop de culture et tout. Et j'avais oublié qu'il y en avait un fada qui était par là, c'était sur mon noyer. Il m'a coupé la branche et il a fait tomber les petits bébés chouettes. Et j'ai réfléchi qu'après, je me suis dit pourquoi il m'a fait ça? Parce que moi je suis assez directe. Voilà, excusez-moi. Et c'est pour pas qu'on dise qu'il traite tellement que les chouettes crèvent. Vous voyez ?
D'accord.
Et ça fait dur à avaler, hein, la vache. Ah, ouais. Alors chaque fois qu'on a des nichoirs, on est obligé de surveiller.
Et sinon, pour vous, c'est pourquoi ces prédateurs de rongeurs ?
Voilà, vous avez tout compris. Là, il y a de souris, de plein de... Ah ouais, puis c'est tellement beau.
Mais vous les avez installées ou elles s'installent naturellement une fois que les nichoirs sont là ?
Ah oui, après, elles viennent tout le temps après.
D'accord.
Ah ouais, si elles sont bien, elles viennent. Si elles ne sont pas bien, si elles sont dérangées, elles partent, ce qui est logique. Ce qui est logique. Là, ça va faire 5-6 ans que j'ai déjà là.
Mais vous les avez baptisés pour les reconnaître ?
Non, non, on sait exactement où c'est que...
Vous les appelez le matin ?
Quand vous les voyez, c'est trop beau, hein. Parce que moi, elles vous connaissent, hein. Il n'y a pas de secret. Hein.
Ah, ouais, là, ah oui, donc elles n'ont pas peur de vous.
Petits bébés, ah non, là, vous pouvez y aller. C'est beau, hein. Elles ont un peu gris foncé, là. Et un blanc crème, c'est beau une chouette, ça, c'est magnifique. Ah ouais. Les petits bébés, on est tout contents.
Là, donc, on ne verra pas, elles dorment.
Ouais. Ah oui, là, ouais. Il y a trop de monde, là. Ouais. Je vais te permettre ta main, parce qu'après, c'est part, là, c'est j'écoute, sensible. Là. Ah. Ah, c'est
pareil, le sureau, ça, tous ces animaux, ils aiment. Les mûriers, on avait, je ne sais pas combien dans la plaine, il y avait des mûriers. Tout le monde coupe les mûriers. C'est peut-être le seul qui reste. Il y en avait un en bas, ils nous l'ont fait crever. Et ils y mettent des saloperies au bas du pied. Et puis après, ils crèvent.
Ouais. En plus, c'est vrai que c'est du coup pour nicher toutes sortes d'animaux.
C'est pas d'animaux. Mal, parce que c'est le tracteur il tourne pas au bon moment où voilà, ça va peut-être dans la tête. Bon, question subsidiaire. Là, il y avait tous vos pommes de terre que vous allez manger tout l'hiver. Mm-hmm. Et puis là, il y a des navets.
Alors, voyez, quand je me dis que je vais au rame,
je fais des rêves partis.
L'agriculture biologique, c'est un état d'esprit. Mise en garde d'Henri à propos du bio-business.
Il y a un système intégré d'agriculture biologique qu'il faut respecter, la vie du sol, tout ça. Maintenant, avec le développement de la bio et des gros producteurs bio, en définitive, ils ne sont pas couillons. Ils ont repris le système d'agriculture chimique. Parce qu'ils ne savent pas tout ça. Et ils croient que ça va marcher. C'est-à-dire qu'ils augmentent la fertilisation pour avoir plus de rendement. Ce qui fait qu'ils peuvent vendre moins cher. Le problème, c'est qu'à terme, ils vont avoir les mêmes problèmes qu'en chimie. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes fongiques. Donc, ils vont passer une fois du soufre, du cuivre. Au lieu d'en mettre une fois, ils vont en mettre deux, trois fois.
Et après, il y a une saturation.
Après, pour les vers du poireau, les trucs comme ça, ils vont faire la même chose. Au lieu de passer une fois, deux fois, ils vont passer trois fois, quatre fois, cinq fois. Moi, je reçois le truc d'Adabio sur toutes les zones maraîchères. Il y en a qui n'arrivent même pas à faire des poireaux. Les mecs, ils sont maraîchers purs. Je dis, mais c'est pas possible, ça. Ils n'arrivent pas à faire des poireaux. Parce qu'il y a une zone maraîchère qui est tellement grande que le ver du poireau, il est content, hein, il trouve toujours un poireau pour bouffer. Et les mecs, ils mettent tellement de fertilisants que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que le ver du poireau, il vient là, il se gave parce qu'il trouve vraiment de quoi bouffer. Et ça, c'est pas normal. On respecte pas le truc de l'agriculture biologique de base. On veut traficoter l'agriculture biologique en lui faisant rendre au maximum et en définitive en utilisant les techniques de l'agriculture biologique. Mais c'est un passage de bactéries pour les vers du poireau, c'est une chose, mais cinq passages, c'est anormal. Parce qu'on peut lutter contre une attaque ou deux de vers du poireau, c'est normal, mais amener des conditions de développement de vers du poireau énormes, ça, on sort du champ d'application de la culture biologique, j'allais dire, raisonnable. C'est toujours pareil. Qui fait la qualité d'un produit, c'est le paysan biologique. C'est pas un cahier des charges, c'est le paysan bio.
Manger bio, varié et de saison, c'est facile et livré à domicile.
Je peux vous demander votre prénom, madame ?
Françoise.
Françoise, vous connaissez la ferme Ruca depuis longtemps ?
Depuis quelques années, oui, déjà.
Vous habitez au Touvet ?
Non, au Zadré. Nous avons, avec une amie, Anne, mis en place bénévolement donc, un service tous les samedis matins. David ou Alain viennent nous livrer les 34 paniers que nous avons commandés aux adrets.
David Ruca, c'est la relève. L'agriculture biologique n'a rien d'archaïque, bien au contraire, elle se tourne résolument vers l'avenir.
Nous, on n'a rien inventé, hein, comme je dis. On a repris ce que nos anciens avaient entre les mains, c'est-à-dire des connaissances que l'on n'a plus forcément, ou on fait appel à d'autres personnes qui, par le biais, je dirais, de filières pétrochimiques, voient leur intérêt au niveau des engrais et du phytosanitaire. Nous, on n'a rien inventé. Hein. Je veux dire, on n'a jamais eu besoin de rendre poulain pour faire pousser une salade. Ça, c'est ma théorie. Les anciens savaient très bien se débrouiller. Maintenant, on n'est pas non plus des vieux de la vieille. On sait très bien se débrouiller avec les données mécaniques qu'on a maintenant à notre disposition et puis faire avec et s'informer au travers de salons. Notre expo qui va être sur Paris dans pas longtemps, on va y aller. Des salons aussi dans le... Sur Avignon, enfin voilà, la connaissance, nous on ne se la garde pas, hein, on veut très bien la communiquer ou alors l'entendre d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Hollande, comme des gens qui sont vachement ouverts et qui font de la bio depuis très longtemps. Et nous, quand on fait les foires, on nous appelle les petits Français, quoi, ça veut bien, c'est en rigolant, mais je veux dire, voilà, ça veut bien dire qu'on a quand même du chemin encore à faire, même si, on. J'espère faire arriver à la. À ce que fait mon père, mais même faire peut-être, j'espère un jour faire pareil et peut-être faire mieux, mais déjà faire pareil sera bien déjà.
Entendu, bon, voilà une bonne réponse à ceux qui, même très haut placés, nous disent l'écologie ça suffit, ça commence à bien faire.
Tout à fait.
Merci David.
Merci à vous, merci beaucoup. Les radis sont petits, c'est pour ouvrir l'appétit. Quelle belle vallée! Avec ses fermes et ses fermiers,
avec ses graines et ses greniers.